Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folie douce, ici Yvan Bugeaud. Aujourd'hui, je reçois Guillaume Bertrand qui nous explique ce que c'est de vivre avec le syndrome d'Asperger. À l'espresso et l'espresso allongé, Pierre nous amène son sujet, les relations toxiques et les enfants. Notre collaboratrice Catherine Stassin est aussi des nôtres. Elle nous parle d'agriculteurs et de santé mentale. Alors tout ça dans le menu de Folie douce cette semaine. On commence dans quelques instants en chanson avec Vincent Vallière. La chanson s'intitule « Homme de rien ». Bienvenue à Folie douce.
Vous êtes branché sur Folie douce, soyez au courant des multiples thèmes de la santé émotionnelle.
C'est avec joie que j'accueille notre invité, Guillaume Bertrand. Bonjour Guillaume.
Bonjour Yvan.
Bonjour, bienvenue à l'émission Folie douce. Je suis content de te recevoir parce que tu nous as contacté. C'est toujours intéressant de connaître nos auditeurs. Tu m'as contacté en fait en me disant que tu es un jeune homme quand même dans la trentaine qui a un syndrome d'Asperger. J'aimerais ça d'abord connaître ton histoire. Comment tu peux nous raconter un peu comment tu es arrivé finalement à l'âge que tu es aujourd'hui?
Bien, c'est sûr qu'avec tout le parcours scolaire et personnel que j'ai connu, il y a eu énormément d'entourage autour de moi. Puis j'ai connu des embûches, de la persévérance, des difficultés, mais toujours j'allais chercher le beau côté de ces choses-là. Puis c'est ce qui fait aujourd'hui, à 44 ans, je vis avec un syndrome d'Asperger, puis je conjugue avec ça.
Puis t'es capable d'en parler, c'est déjà une bonne nouvelle. Quand on peut parler de quelque chose, j'imagine, c'est parce qu'on l'a accepté puis qu'on a décidé de conjuguer avec ça, là.
Puis il y en a qui l'accepteront jamais, puis c'est correct, tant qu'ils s'adaptent.
Ouais.
C'est ça qui est important dans la vie.
Si tu nous parles de ton histoire, à quel moment tu as eu le diagnostic du syndrome d'Asperger?
Environ vers l'âge de 10 ans, donc deuxième cycle du primaire.
Puis comment tu as réagi et peut-être pourquoi vous aviez consulté? Est-ce que tu sentais que tu avais des comportements qui n'étaient pas comme la majorité des gens?
C'est surtout que j'avais de la misère à m'intégrer dans certaines relations autour de moi avec des jeunes camarades de classe. J'allais souvent dire des répliques de films inappropriées, parfois vulgaires, parfois non, mais qui n'avaient vraiment pas rapport avec le sujet. Déjà vers 8-9 ans. Fait que c'est pour ça que je disais, OK, il y a peut-être quelque chose. Aussi la lenteur d'exécution pour me lever le matin puis aller à l'école, c'était assez flagrant. Donc, il y avait quelque chose aussi de ce niveau-là, manuel, peut-être moteur.
Ouais.
Que c'est là qu'on s'est dit, Guillaume a peut-être un syndrome d'Asperger.
OK.
Parce que c'est vraiment Nathalie Poirier qui l'a dit. Mes deux parents ne connaissaient pas ça, puis c'est vraiment pas connu dans le temps.
Puis comment ça a été la réaction? Parce que, justement, comme c'est moins connu, des fois, on a peur. Puis comme un enfant de 10 ans, j'imagine que c'est un choc jusqu'à un certain point.
Vraiment pas.
Non?
Puis du côté de mes parents, ils ont fait des démarches un petit peu pour savoir si quoi. Puis ils m'ont beaucoup plus encadré qu'un autre enfant neurotypique.
Ouais.
On pourrait dire ça.
OK. Puis comment on pourrait décrire ce que c'est? Parce que je pense que c'est un peu une variante un peu de l'autisme. L'autisme, c'est large, puis il y a beaucoup de types d'autisme, là. Mais le syndrome d'Asperger, comment on peut le décrire, là? Tu me donnais un peu des trucs que tu faisais, mais est-ce qu'il y a une façon claire de le décrire pour les auditeurs?
Bien sûr. C'est une différence liée au trouble du spectre de l'autisme. Puis comme chaque personne est propre à elle-même,
ouais,
c'est difficile d'aller dans les explications générales.
Okay.
C'est vraiment au niveau des relations sociales que ça va être difficile et organisationnel dans les journées, mettons.
Oui, mais comme pour toutes les problématiques, si on peut dire que c'est une problématique, il y a toujours aussi des bons côtés. T'sais, on dit des fois que certaines personnes qui ont certaines problématiques, ils ont plus de talent pour d'autres choses. Est-ce qu'il y a effectivement des côtés positifs?
Oui, de mon côté, on peut parler du par cœur, de la résilience, du réconfort, le positivisme, l'écoute des gens, le choix des mots,
okay,
les répliques de films, le doublage québécois, je trippe au bout.
Okay.
Puis je connais le nom de plusieurs comédiens qui font des voix. Il y a aussi le fait que je fais ce qui est bon pour ma santé mentale et physique. Puis, je me pose beaucoup de questions, je vais chercher mes réponses.
OK. Fait que ça, c'est quand même bien. Comment tu pourrais dire que comment tu te sens aujourd'hui? Tu sais, tu as eu un diagnostic à l'âge de 10 ans, maintenant tu as 34 ans. Comment tu pourrais évaluer ta situation actuelle?
Je suis extrêmement chanceux. C'est pas toutes les personnes Asperger ou autistes de haut niveau, même bien entourées, qui réussissent à aller où ce que je suis aujourd'hui, donc en appartement, seul dans un 4,5 avec des locataires en bas. Sinon, oui, je suis content. Même que je peux conduire jusqu'à à peu près sur la rive sud jusqu'à Varennes.
Okay.
Puis Saint-Hyacinthe, quand ça va bien de l'autre côté. Là. Mais c'est ça. Je trouve toujours des moyens de me débrouiller. Puis j'aime ça. C'est vraiment un défi pour moi chaque jour.
Et as-tu pu, au courant de ta jeunesse, justement, faire des études assez normalement et fonctionner?
Absolument. Je suis allé autant au public qu'au privé. Puis j'ai terminé l'école secondaire à Bastalière en allant chercher mon diplôme d'études secondaires.
OK. Est-ce que tu te trouves à travailler maintenant? Ouais.
Oui, exactement. Au centre sportif Paul Lemieux, dans le temps, qui est maintenant le complexe Sport-Saint à Saint-Hilaire.
Donc, finalement, on pourrait dire que tu conjugues bien avec la problématique. Si on peut appeler ça une problématique, je ne sais pas comment tu veux la nommer. Est-ce que tu trouves ça réducteur de dire que c'est une problématique ou c'est un état d'être? Comment on pourrait le nommer?
Peut-être un état. C'est une différence. puis une différence qui fait briller autour.
Ouais.
C'est parce que les gens ont tellement à apprendre de ça. Puis, c'est l'orgueil qu'il faudrait que certains laissent de côté, mais ça, c'est une autre chose. Mais nous autres, également, on peut tellement s'adapter aux neurotypiques puis apprendre d'eux autres. C'est tellement beau.
Ça veut dire quoi, les neurotypiques?
C'est des personnes qui n'ont pas de diagnostic précis lié à l'autisme.
OK. Puis, il y a certainement beaucoup de gens qui sont touchés par cet état-là de le syndrome d'Asperger qu'on connaît peut-être même pas. Il y a peut-être des gens qui s'ignorent aussi. Est-ce que ça se peut qu'il y ait des gens adultes même qui ont ça, mais qui n'ont jamais eu de diagnostic?
Vraiment, oui.
Oui. Puis,
je suis persuadé.
C'est peut-être des fois, c'est d'en savoir plus pour justement mieux se connaître. Ben, j'imagine que ça te permet de lire sur le sujet puis d'essayer de conjuguer avec ça. Là.
Puis je suis quand même très chanceux. Malgré les difficultés que j'encontre, j'ai au moins la chance de m'améliorer à 100% assez rapidement dans ces choses-là. Là.
Oui. Avant d'entrer en onde, tu me disais qu'il y avait plusieurs auteurs qui t'inspiraient. Pourrais-tu nous en parler?
Oui, exactement. Je pense à Frédéric Dufort, qui est comédienne. Ensuite, il y a Lucilla Guerrero, qui est aussi auteur. Il y a Nathalie Poirier, qui m'a diagnostiqué Asperger. Ensuite, Stéphanie Deslauriers, qui a écrit « Laisse-moi t'expliquer l'autisme », où j'ai pu lire un beau témoignage à son lancement de livre.
Okay.
Puis, il y a plusieurs auteurs de ce genre-là que j'aime beaucoup. Il y a Catherine Girard-Audet, que j'adore. Puis, plusieurs.
Oui. Non, c'est intéressant. Mais c'est intéressant que tu développes là-dessus. Trouves-tu que c'est très tabou encore?
Plus ou moins.
Okay,
plus ou moins, ça dépend de la personnalité des gens qui vivent avec ou qui l'encontrent. C'est juste dommage que certains ne s'ouvrent pas assez. Mais l'entourage, donc les amis, peuvent avoir un rôle à jouer là-dedans.
Et de ton côté, as-tu eu un peu à dédramatiser la chose ou à informer le monde? Est-ce que tu te considères un peu comme un porte-parole, disons, pour mieux faire comprendre aux gens ce que c'est le syndrome d'Asperger?
Certainement. Depuis 2006-2007 environ, je fais des conférences environ une dizaine de fois par année. Pas juste dans les écoles. J'en ai fait dans les carrefours jeunesse-emploi, les cafés. J'en ai fait aussi les écoles, les cégeps. L'Université de Montréal, je connais, l'UQAM. Puis plusieurs endroits comme ça, j'aime beaucoup. Mais oui, parce que ça me permet au moins de parler des difficultés que j'ai parce que je suis une personne extrêmement authentique. Puis sensible. Fait que c'est deux belles qualités qui me permettent d'avoir une belle élocution sur la réalité du TSA. Là.
Et quand les gens t'invitent, est-ce que c'est des groupes particuliers qui t'invitent ou c'est plus pour mieux comprendre? C'est dans quel cadre que tu vas faire des conférences?
Très bonne question. C'est souvent moi qui contacte les gens. Je dis bonjour, mon nom est Guillaume Bertrand. J'arrive à faire des conférences parfois sur la réalité d'Asperger. Est-ce que ça peut convenir à votre équipe? Fait que là, on me dit oui, tel niveau. Ensuite, ça peut être des groupes spécialisés, mais je vais surtout parler à des parents, des intervenants, des professeurs. Moi, ce que j'aime vraiment, c'est être avec les personnes neurotypiques, puis prendre la défense des personnes TSA, tout en étant avec eux aussi.
Oui. Est-ce que tu sais combien de gens ont à vivre avec le syndrome d'Asperger, disons, au Québec? As-tu des statistiques?
Très difficile à dire ça.
OK. Il y a peut-être beaucoup de gens qui ne sont pas diagnostiqués, entre autres. Là.
Il y a ça aussi qui rentre dans l'équation, oui.
Ouais. Est-ce que tu vois des choses aussi visuelles, soit des films ou des émissions, peu importe, est-ce qu'il y a des choses qui ont été bien faites, qui ont justement apporté peut-être de l'information correcte pour la problématique?
Je dirais que dans l'émission L'Heure bleue, il y avait l'histoire de Jules, Frédéric Lemay, que j'ai énormément aimé. Puis ensuite, les gens qui vont parler de leur expérience à la télé communautaire ou à TVA.
Oui.
Vraiment, ça peut être extrêmement intéressant.
Ça passe par là, c'est ça, dans le fond. Ça passe par il faut en parler, puis c'est un peu ce que tu fais aujourd'hui à l'émission. Puis on apprécie que tu m'as contacté. Dans le fond, j'apprécie ça parce que c'est intéressant des fois de voir la version en fait de la personne qui a à vivre avec un syndrome d'Asperger.
Merci.
Qu'est-ce que tu peux nous rajouter? Il nous reste peut-être une minute ou deux, Guillaume. Est-ce qu'il y a des messages que tu voudrais nous lancer ou certaines informations que tu voudrais nous donner?
Oui, ben si des gens écoutent puis qui aimeraient m'inviter à une émission de télévision, à l'occasion, je le fais. Je suis déjà passé à quelques émissions, dont Deux filles le matin et Autiste maintenant majeur.
OK.
Puis, si je peux en parler, ça va me faire plaisir. Je me suis adapté également à la réalité virtuelle qui est Zoom ou Teams. Ça ne me dérange pas du tout. Ça me fait même plaisir. Puis, des appels téléphoniques, des articles de journaux. Puis, je trouverai un arrangement avec mon travail pour voir si ça accorde. Sinon, on trouvera une autre façon. Je suis prêt à faire des compromis pour pouvoir partager mon expérience, donner de l'espoir.
Donc, ça tombe que tu t'es donné un peu une mission, tu sais, dans le fond, depuis quelques années, en faisant soit des conférences ou des entrevues comme ça pour mieux faire connaître. Parce qu'effectivement, il y a peut-être un manque d'informations. On ne connaît peut-être pas tant que ça le syndrome d'Asperger, qui est un peu une variante de l'autisme, comme on disait tantôt.
Oui, puis c'est tellement variable, justement, d'une personne à l'autre que c'est vraiment difficile d'aller dans les explications claires. Mais les dénominateurs communs, c'est surtout au niveau des relations. Mais encore là, les personnes Asperger ou autistes de haut niveau peuvent s'intégrer. C'est juste que les gens puissent changer leurs mots aussi. Les maudites expressions qu'on entend trop souvent, comme c'est la vie ou des choses comme ça,
ouais.
Ça aide pas la personne TSA ou ça à comprendre les nuances. Puis même en personne neurotypique, je vois des malaises.
Oui, il faut peser nos mots, dans le fond, il faut faire attention, un peu comme on disait tantôt, dans le fond, il faut conjuguer avec. C'est important, les bons mots pour indiquer les bonnes choses.
Oui, surtout quand le travail est parfois exigeant ou parfois ambigu, mais c'est là qu'est l'importance de bien montrer au début, puis de demander à la personne différente de faire des liens dans sa tête. Bon, va me chercher la guenille, bon, ben c'est juste à côté de telle chose.
Ouais.
Hein, puis à côté de telle chose, ben ça me fait penser à une réplique de film, quelque chose comme
okay.
ça.
Ouais, ouais.
C'est vraiment d'amener la personne qui a vraiment des intérêts restreints à Asperger à faire des liens. Mais encore là, moi, j'étais chanceux. Les intérêts, oui, sont restreints parce que des doublages, tennis, volleyball, mais c'est juste que je suis capable de m'ouvrir à bien d'autres choses. Puis je suis toujours content d'apprendre. C'est l'amour de l'apprentissage qui est une de mes forces puis de mes passions également.
Et parfait. Merci beaucoup, Guillaume. C'était fort intéressant. C'est déjà terminé, Guillaume Bertrand. Donc, merci d'avoir livré ce témoignage-là. Puis je te souhaite la meilleure chance pour la suite. Ça a été un plaisir de te parler à Folie Douce.
Merci beaucoup de m'avoir reçu.
Merci et à la prochaine.
Bye.
Bye.
Dans leur prison dorée, des géants de ce monde construisent en papier des chimères et des bombes. Dire que petit enfant on rêvait tout en grand. Faut croire qu'en grandissant on s'enferme en dedans. Qu'est-ce que moi je fais dans tout ça? Est-ce que j'écoute la voix qui parle au fond de moi? Moi je veux devenir, devenir, devenir quelqu'un. Pouvoir me souvenir, souvenir, souvenir à la fin. Combien j'aurais cherché mon chemin. Quelqu'un de bien, quelqu'un de bien. Pour réussir sa vie, briller, se faire une place. Ce quel qu'en soit le prix, y a pas de règle, hélas. Mais qu'a-t-on réussi quand on tait notre audace et qu'on se sent petit dans nos prisons de glace? Qu'est-ce que moi je fais? Moi je veux devenir, devenir, devenir quelqu'un. Pouvoir me souvenir, souvenir, souvenir à la fin. Combien j'aurais cherché mon chemin. Pour enfin devenir, devenir, devenir quelqu'un. Quelqu'un de bien. Les écrans de fumée ont enfermé mes rêves. dire que petit enfant voyait tout en grand. Faut croire qu'en grandissant, on s'enferme en dedans. Moi je veux devenir, devenir, devenir quelqu'un. Pouvoir me souvenir, souvenir, souvenir à la fin. Qu'au mieux j'aurais cherché mon chemin. Pour enfin devenir, devenir, devenir quelqu'un. Quelqu'un de bien.
Polydous est aussi présent sur Instagram. Venez nous voir.
C'est maintenant le moment du bloc espresso. Alors, bonjour Pierre Laporte.
Salut Yvan.
Alors aujourd'hui, ton sujet, les relations toxiques et les enfants.
Exactement, les relations toxiques. Ici, on parle entre parents, peuvent être extrêmement dommageables pour les enfants.
Ouais.
C'est d'après un article que j'ai trouvé sur Internet qui s'appelle une relation toxique entre les parents laisse des séquelles chez les enfants. C'est sur un site français qui s'appelle Nos Pensées. Mm-hmm. C'est un site sur lequel je vais à l'occasion chercher des choses. Alors, on nous dit, en commençant, que quiconque maltraite psychologiquement son conjoint se sert du chantage, méprise, humilie et réduit à néant une estime de soi, exerce aussi une maltraitance indirecte, mais atroce sur ses propres enfants. Ceux-ci, témoins constants d'une relation toxique, deviennent les premières victimes et les tristes dépositaires d'un héritage émotionnel marqué par des séquelles parfois irréversibles. Selon l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, et le Forum économique mondial, les maladies mentales sont les premières causes d'incapacité de travail dans le monde. Une grande partie d'entre elles, aussi curieux que cela nous paraisse, trouve sa source dans les relations toxiques ou abusives et dans l'impact psychologique qu'elles laissent chez les personnes. Des indicateurs comme le stress post-traumatique, les dépressions, les troubles de l'anxiété, la douleur chronique, l'asthme ou même le diabète sont également des marques silencieuses mais persistantes de ce type de lien dysfonctionnel. Et Sigmund Freud, le célèbre psychiatre allemand, avait dit « Pendant l'enfance, il n'y a aucun besoin aussi fort que le besoin de protection des parents. »
C'est vrai, ça. Il faut que l'enfant sente que ses parents seront là pour le protéger, puis il est en sécurité, tout ça.
Exactement.
Ça se ressent, ça, effectivement.
Oui. Je continue la lecture. « Les institutions sociales et sanitaires signalent aussi ce besoin d'aider les victimes de ce type d'abus psychologiques ou physiques dans le couple et non de les stigmatiser. » On fait référence au fait de doter ces personnes, hommes ou femmes, de ressources adéquates et de stratégies pour se revaloriser psychologiquement et émotionnellement et ainsi être réintégrés normalement à leur vie. Mais ce que l'on néglige, c'est que l'on oublie ou met souvent de côté, ce sont les enfants qui, dès leur plus jeune âge, sont les témoins de ces dynamiques nuisibles et de ces atmosphères si toxiques. Ces petits ont intériorisé silencieusement chaque atome, chaque geste, chaque son, chaque cri, chaque mot et chaque larme versée dans leurs esprits doux et innocents sans que l'on ne sache très bien l'impact que peut avoir le jour suivant sur leur vie. Nous ne pouvons pas oublier que le cercle de la violence est comme un serpent qui mord constamment sa propre queue et qui perpétue encore et encore les mêmes faits et les mêmes dynamiques. Ces enfants qui sont aujourd'hui les témoins d'une relation toxique seront peut-être dès demain de nouvelles victimes ou de nouveaux bourreaux.
Mmh. Ouais.
Être témoin d'une relation toxique nous transforme aussi en victimes.
C'est ça qui est un peu plate, c'est un peu le... Tu sais, les enfants sont tellement éponges, tu sais, ils absorbent beaucoup de choses, alors ils partent déjà avec une espèce de traumatisme qui va les déranger peut-être pour eux-mêmes pour le reste de leur vie.
Oui, dans plusieurs cas.
Ouais, c'est très dommage.
Oui, parce que les enfants aussi, ils vont se sentir coupables de tout ce qui se passe autour d'eux.
C'est vrai.
La phrase « Non, je n'ai jamais levé la main sur mes enfants ou sur mon mari ou ma femme », Il s'agit d'une réaction tristement commune chez les bourreaux ou exécuteurs de cette maltraitance psychologique où l'on ne retrouve ni marque, ni coup mettant en évidence chaque blessure, chaque violation et chaque conduite nocive exécutée dans l'intimité d'un foyer.
C'est aussi dommageable des fois des trucs qui sont pas physiques, mais qui sont plus psychologiques. Là,
ben oui, parce que ça dure tout le temps, tandis que les blessures, oui, ça fait mal, mais ça disparaît au cours de la vie.
C'est ça.
Malgré tout, on nous dit, et même si cela peut paraître curieux, le fait qu'il n'existe pas de marque ou de bleu évident rend la situation encore plus complexe. Dans ces cas, les victimes, au lieu de voir ce comportement comme une maltraitance évidente, ont tendance à rejeter la faute sur elles-mêmes. Cette culpabilité ou cette auto-projection de la responsabilité ne se retrouve pas seulement chez la victime. L'enfant lui-même, témoin de cette dynamique, ressent très souvent ce même sentiment. Car le petit est un compagnon de voyage supplémentaire dans ce train de la douleur, sur ce chemin qui mène tout le monde à la même destination. Nous ne pouvons pas oublier que, comme l'expliquait le psychologue suisse Jean Piaget dans sa théorie du développement cognitif de l'enfant d'entre 2 et 7 ans, ce dernier maintient une approche égocentrique à travers laquelle le monde tourne autour de sa personne. Par conséquent, le petit aura l'impression que la douleur de son papa ou de sa maman, de la même façon que les cris ou les disputes, sont le résultat d'une chose qu'il a d'une certaine façon lui-même provoquée. Et je me rappelle, Yvan, qu'il y a des gens qui parlent des fois de leur enfance, puis des querelles qui se passaient entre les parents. Ouais. Souvent, ces personnes-là vont dire qu'à l'époque, j'avais envie de rentrer en dessous du tapis.
Oui, oui. Ils croyaient que c'était leur faute, puis ils ne savaient plus trop où se mettre, puis ils se disent que c'est peut-être à cause de moi qu'ils vont se chicaner, ou c'est ça.
Ils vont vouloir se cacher en dessous des couvertes.
Oui, ouais, c'est ça. Effectivement. Ouais.
C'est quelque chose de...
Dans un placard, ou c'est ça. Oui, effectivement. Ouais. Ouais. C'est traumatisant.
Oui, ce qu'on nous dit, par conséquent, il est important de prendre cela en compte. Au sein de toute relation toxique où l'on retrouve des enfants, ceux-ci deviennent automatiquement des victimes. Peu importe qu'ils soient derrière une porte ou qu'ils ne voient rien, peu importe qu'ils ne sachent pas encore marcher, lire ou pédaler, etc. Alors je poursuivrai un peu plus tard.
À l'espresso allongé plus tard à Folie douce, donc les relations toxiques et les enfants demeurez des nôtres.
Laissons tomber nos préjugés et dépoussiérons le sujet de la santé mentale. Nos chroniqueurs nous aident à y voir plus clair.
Nous y allons maintenant avec notre collaboratrice Catherine Stassin. Bonjour Catherine.
Bonjour Yvan.
Alors aujourd'hui, cultivons ensemble la santé mentale de nos agriculteurs. Pourquoi
oui,
pas?
C'est
Pourquoi
tout
pas?
Un programme.
Ah oui, c'est un programme. On s'engage dans quelque chose d'intéressant.
Oui. Mais Yvan, dis-moi, est-ce que tu penses que c'est un métier un peu comme un autre?
Ben, moi, je dirais que c'est comme une vocation plus qu'un métier. Je pense qu'il faut vraiment, avec ce que ça implique, là, je pense que quelqu'un qui est agriculteur a tout mon respect parce que c'est quelque chose qui est très demandant.
Oui, avec ce que ça implique, comme tu dis justement, c'est vraiment un engagement et surtout, c'est une profession qui dépend énormément aussi bien de la météo que de politique gouvernementale, que d'une crise gouvernementale avec la Chine, par exemple, d'épidémie.
Ouais.
Ça peut être la grippe porcine, mais ça peut être aussi des maladies sur les plantes, le blé, le maïs, etc. Donc, on voit qu'il y a beaucoup d'impondérables et que le fermier ou l'agriculteur, tout au long de sa saison, il est inquiet de la météo ou des maladies.
Ouais.
Et puis après, il se dit, mais est-ce que je vais le vendre? Est-ce que je vais le vendre à prix suffisamment élevé pour pouvoir payer ma nouvelle machine, par exemple.
Ouais.
Donc, il y a énormément d'incertitudes, énormément d'impondérables également. Et ça rend ce métier sujet au stress, un très grand stress.
Et je pense qu'il y en a moins qu'auparavant. Il y a moins de gens qui ont comme le feu sacré, peut-être, pour faire ce métier-là, l'assurer pendant des années. Alors, ça met de la pression aussi pour ceux qui le demeurent, là.
Oui, dans le temps, c'est vrai qu'on devenait un petit peu agriculteur parce que les parents l'étaient.
Ouais. Il y a plus de monde à la campagne dans le temps
voilà.
aussi. Les gens sont peut-être
déplacés. Maintenant, les gens choisissent plus peut-être
ouais,
aussi d'aller aussi. Vers ce métier-là. Mais on peut compter aujourd'hui 42 000 agriculteurs au Québec.
OK.
Et en fait, sur ces 42 000, un peu moins de la moitié ont déjà éprouvé de la détresse psychologique.
OK.
Donc, c'est quand même beaucoup. Important.
C'est très important. Puis, comme tu disais aussi tantôt, il y a des gens, justement, qui choisissent l'agriculture, ce qui est encourageant. Souvent, il y a même des plus jeunes qui décident d'aller faire une agriculture, disons, biologique ou une agriculture peut-être un peu nouveau genre, mais qui décident eux-mêmes de participer à cet effort qui est très, très important pour la population, là.
Oui, ces personnes arrivent aussi avec une mentalité nouvelle. Il y a une distance par rapport à la profession, il y a une
ouais.
distance par rapport aux valeurs de la terre. Et ça explique aussi un petit peu, quand je parle de ça, pourquoi, dans le fond, il y a peut-être autant de détresse chez les agriculteurs en ce moment aussi. C'est parce que, à la base, les valeurs individuelles étaient des valeurs très basées sur la fierté de ce qu'on peut faire, la fierté de se débrouiller tout seul.
Mm-hmm.
Même si des fois il y a de l'entraide, on peut prêter une machine, etc. Mais maintenant, souvent, ils louent des machines pour la récolte. Donc, il y a des valeurs agraires qui sont vraiment un frein au développement de l'aide à l'agriculteur. C'est-à-dire que c'est très difficile d'aller les chercher, de leur apporter de l'aide. Il y a une énorme sensibilisation à faire, il y a de l'éducation à faire. Et aussi, il faut que ces personnes aient une volonté d'un petit peu baisser la garde et d'accepter de l'aide.
Ouais.
Et ça, c'est autre chose, parce que ça, c'est vraiment toute une nouvelle mentalité. C'est une explication du pourquoi de la détresse et aussi peut-être du pourquoi, malheureusement, du taux de suicide qui est 2 à 3 fois plus élevé que dans la population générale au Québec.
Et c'est beaucoup. Et même,
c'est
le, et même le 46 %, c'est beaucoup plus élevé que dans la population générale. Le 46
oui.
% de gens qui ont connu la détresse psychologique, c'est quand
voilà.
même beaucoup, presque une
ouais.
personne sur deux. Là.
Bien, c'est dû notamment hein, à cette particularité des valeurs véhiculées par leurs ancêtres.
Ouais.
Et puis, ça peut être également peut-être dû à... On peut se poser la question, en tout cas. Est-ce que les services offerts pour le moment sont adaptés pour les agriculteurs? On peut se poser la question, est-ce qu'on leur offre ce qu'il faut? Est-ce qu'on leur offre ce qui leur permet de s'en sortir psychologiquement? Et là, on peut se poser énormément de questions. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais un petit peu parler de services qui sont nouveaux et qui essayent d'aller au-devant des agriculteurs, qui ne sont pas juste des offres stationnaires, on va dire, où on les attend, au CLSC ou ailleurs. Oui, oui, mais vous pouvez venir. Mais rares sont les fermiers, les agriculteurs, hein, qui vont faire la démarche de venir spontanément sans avoir été démarchés eux-mêmes.
Et ils sont, d'une certaine façon, sont un peu isolés. T'sais, ils sont dans un milieu qui est rural, donc souvent à distance, ils ne sont pas dans un endroit où tout le monde est collé. T'sais, la ferme, c'est assez
ben,
grand
c'est
quand
aussi...
même.
Une explication, en
ouais,
fait, tout à fait.
Ils sont déjà isolés, donc finalement, mm-hmm. c'est déjà s'ils ont trop d'occupations, c'est peut-être difficile d'aller eux-mêmes faire des démarches pour avoir de l'aide.
Ils sont non seulement loin physiquement, mais en plus, ils ont énormément de travail. Donc pour eux, « Oh mais non, je ne veux pas prendre le temps pour ça, ça c'est secondaire, etc. »
Ça va passer
tomber
peut-être,
dans le trou.
C'est ça, exactement.
Ouais. Donc là, il y a vraiment une difficulté pour aller le rejoindre. Et il y a une initiative extraordinaire qui fait que les intermédiaires qui vont chercher les agriculteurs sont appelés les travailleurs de rang.
Ouais.
Alors, c'est une profession où les gens sont formés, évidemment, au travail social, mais on leur demande en général d'avoir une bonne connaissance du milieu de l'agriculture, que ce soit en élevage ou en culture. Donc, ces personnes font des démarches. Qu'est-ce qu'elles font? Eh bien, elles vont passer leur journée à aller voir les agriculteurs. Aller se présenter, expliquer ce qu'elles font. Laisser une carte, même si les personnes ne veulent pas spécialement leur parler, vont laisser une carte, vont laisser des coordonnées, peut-être qu'un jour ça peut servir.
Ouais.
Elles étendent ainsi aussi un réseau. Elles disent, mais voilà, j'ai parlé, si évidemment les agriculteurs en question sont d'accord, je suis en contact avec tel agriculteur déjà, dans la communauté, vous pouvez également leur parler, etc. Vous pouvez me revenir, vous pouvez aussi aller vers l'offre officielle du gouvernement. Donc, ces travailleurs vont vraiment à la rencontre des agriculteurs. ils n'attendent pas à les agriculteurs à leur bureau en disant « bon, bah, ils passent ou ils ne passent pas ». Non, ils se font connaître, ils vont au-devant, c'est pour ça qu'on les appelle travailleurs de rang,
ouais.
Parce qu'ils vont vraiment les voir. En plus de ces fameux travailleurs de rang, il existe au Québec 1700 sentinelles. Alors, c'est quoi ces sentinelles? Vous avez peut-être déjà entendu parler des sentinelles pour lutter contre le suicide.
Ouais.
Alors, c'est la même chose. Il y a 1700 sentinelles dans le milieu agraire. Alors, ces gens-là, ils peuvent faire partie d'associations. Ça peut être des parents de fermiers, ça peut être des agriculteurs eux-mêmes qui sont ces sentinelles. Ils vont tisser un réseau et ils vont aller lancer peut-être des sonnettes d'alarme et tout de suite orienter les personnes vers les bons services.
Mmh.
Donc, ça permettra peut-être de ne pas attendre que ce soit trop tard. Donc, elles ont un rôle important, ces sentinelles. Elles sont formées chaque année. Il y a des formations spécifiques pour ces personnes qui sont des KIDAM dans les milieux. Et donc, c'est vraiment une partie fondamentale de la toile qui va aider à ce que quand l'agriculteur tombe, entre guillemets, il soit rattrapé par cette toile
ouais.
qui est faite ou des travailleurs ou des sentinelles ou les deux. Alors, on a encore aussi un autre type d'aide avec différents types d'associations, d'accord ? Il y a la très connue Au cœur des familles agricoles. C'est une association qui réussit grâce à des subsides de l'État et des dons à également... payer des travailleurs de rang supplémentaires.
Okay.
Donc ça, c'est essentiel. Ils vont aller détecter les premiers signes de détresse, ces travailleurs. Ils vont vraiment être sensibles à donner des outils d'auto-évaluation aux agriculteurs. On peut parler aussi d'une dernière initiative très intéressante. Il s'agit de Québécois qui proposent une application mobile pour les agriculteurs. Alors, attention, cette application, je le dis tout de suite, elle est en développement.
Et ça s'appelle donc, comment
Alors, ça s'appelle La Bêche. Merci, Yvan, de me rappeler ça. Ça s'appelle La Bêche. Qu'est-ce que ça va faire? En premier temps, il y a trois fonctions, d'accord? La première fonction, ça va être d'inciter les agriculteurs à répondre à un petit questionnaire, vraiment pas long, pour connaître leur propre état de santé mentale. Et peut-être qu'ils se disent « oui, mais ça va ». Mais une fois qu'ils remplissent le questionnaire, on se rend compte qu'il y a des petits drapeaux déjà peut-être. Alors la deuxième fonction, ça va être permettre de leur envoyer immédiatement des réponses à leurs questions s'ils en ont et des solutions possibles aussi dans leur région.
Okay.
Troisième fonctionnalité, mettre immédiatement en contact les agriculteurs avec des intervenants appropriés. Donc, c'est vraiment quelque chose d'unique. Il s'agit d'un c'est le fruit de la collaboration d'un viticulteur, Étienne. Excusez-moi, j'ai perdu le nom.
Gosselin, je pense.
Voilà, Étienne Gosselin, et d'une éducatrice spécialisée, Hélène Bourgoin. Donc, on peut saluer ce travail et j'en parlerai certainement lors de la sortie de l'application de manière opérationnelle.
Et surtout, le but ultime, c'est vraiment de prévenir et de ne pas attendre avant qu'il soit trop tard, parce que comme tu disais tout à l'heure en début de chronique, en fait, il y a un haut taux de suicide, beaucoup plus haut que dans la population. On ne veut pas que les gens passent à l'acte. Donc, si on peut désamorcer des fois des crises et trouver des solutions, ça peut qu'aider la situation. Là.
C'est tout à fait vrai. C'est vraiment une culture à développer, une éducation à développer dans le milieu agricole, de dire on peut demander de l'aide. Ce n'est pas un signe de faiblesse, c'est un signe qu'on veut juste de l'aide.
J'ai l'impression que c'est assez tabou. Je ne pense pas que c'est un préjugé. J'ai l'impression que c'est assez tabou, la santé mentale encore au niveau agricole, au niveau du milieu agricole.
C'est très tabou.
Ouais.
On sait que dans notre société, de manière générale, déjà, il y a encore beaucoup
c'est
de tabous.
C'est encore très tabou, mais voilà. Je pense que côté agricole,
a besoin d'aide. Il y a un silence total.
Ouais.
On reste chacun dans son coin, on souffre en silence, et il faut briser ce silence
faut
pour
soin
arriver
nos...
à sauver ouais. les agriculteurs.
Il faut prendre soin de nos
détresse.
Agriculteurs qui s'occupent voilà. de nous aussi. Hein. Ils sont
cultivons
très importants.
Leur santé mentale ensemble, faisant connaître le message.
Exactement.
Et puis faisant connaître aussi le fait qu'il existe des sentinelles, qu'il existe des travailleurs de rang, et que c'est un signe justement de vouloir s'en sortir que de demander de l'aide.
Ouais.
Ce n'est pas un signe de faiblesse. Donc, tous ces intervenants, les opérations qui peuvent exister, ils veulent vraiment les prévenir et promouvoir le service de santé mentale disponible ou ceux qui sont en route pour être disponibles bientôt, comme cette application mobile.
Qui est en développement. Est-ce que, il y a plusieurs coordonnées, je pense qu'on va en mentionner dans notre site web, là, antenne.qc.ca, à la section mentionnée à Folido. Je pense qu'il y a quelques coordonnées que les gens peuvent consulter. Oui. Je pense que tu
nous... Je donne les coordonnées du réseau officiel, bien entendu, mais je donne aussi une trousse de premier 101 pour la santé mentale, ce qui est plus rare, et aussi les coordonnées d'Au cœur des familles agricoles, parce que c'est vraiment un organisme connu dans le milieu qui pourra vous aider, peu importe où vous êtes dans votre région.
Oui, merci beaucoup Catherine donc pour cette chronique sur la santé mentale de nos agriculteurs. Merci, puis à une prochaine.
Au revoir.
Au revoir.
Avec une mer de vide à combler, tu fais du surplace dans les pentes. Moi je fais la course à ce qu'on ne m'a pas donné. Si je cavale, c'est de la faute à ceux qui m'ont fait mal. Et toi quand tu tombes, c'est devenu presque banal. Mais si on se suffisait, si tu te relevais.
Que vous soyez au boulot, dans l'auto, à moto ou à vélo, en manteau ou en speedo, vous écoutez Folie douce.
C'est maintenant le moment du bloc espresso allongé. On poursuit le sujet, entamé plus tôt, Pierre, les relations toxiques et les enfants. Peut-être rappeler un peu, tu as quand même donné quelques points intéressants dans le premier segment espresso.
Oui, ben en fait, moi je trouve tout l'article très intéressant et c'est un point... très intéressant dans la vie moderne, parce que des querelles de couple, c'est pas rare.
Comme tu disais, dans le fond, c'est les relations toxiques des parents qui ont un effet négatif chez les enfants, comme ça arrive souvent. Là.
Exactement, parce que les enfants se sentent coupables de toutes ces querelles-là.
Ouais. Et même, vont des fois se cacher.
J'en connais qui m'ont déjà dit que ça leur est arrivé dans leur enfance, puis ils allaient effectivement se cacher dans le placard.
Ouais. Alors, et comment c'est important, on le sait depuis toujours, mais comment c'est important d'avoir un environnement sain, sécuritaire, aimant, pour les enfants, là, dans le développement, là, ça vaut beaucoup là, d'avoir un environnement comme ça. Je pense que c'est intéressant de s'y intéresser, justement.
Alors, l'article que j'ai trouvé sur Internet, je vous rappelle que ça s'appelait « Une relation toxique entre les parents laisse des séquelles chez les enfants ». C'est sur un site français qui s'appelle nospensées.fr. C'est un article qui n'est pas attribué à un individu en particulier, comme c'est souvent le cas maintenant sur les sites Internet. Alors, je disais que je poursuis ma lecture. On disait que peu importe que les enfants soient derrière une porte ou qu'ils ne voient rien, peu importe qu'ils ne sachent pas encore marcher, lire, pédaler ou dire le nom des constellations qui apparaissent la nuit derrière leurs fenêtres, les enfants sont touchés. Les enfants ressentent et écoutent. Les petits interprètent le monde à leur façon. Et peu de choses peuvent être aussi dévastatrices pour un enfant que le fait de grandir dans un environnement émotionnel aussi pathologique et destructeur. Survivre à la relation abusive de nos parents. Parfois, cette relation toxique est développée par les deux membres du couple. Certaines personnes sont incapables de construire un environnement stable au niveau psychique et émotionnel. Ce sont des profils caractérisés par des va-et-vient entre tendresse et agressivité, complicité et chantage, cela créant un univers hautement dysfonctionnel, aussi bien pour eux-mêmes que pour les enfants qui cohabitent avec le couple. Mm-hmm. Et la fameuse écrivaine Agatha Christie avait déjà dit « L'une des choses les plus précieuses qui peut vous arriver dans la vie est d'avoir une enfance heureuse. »
Absolument, absolument. Les gens qui ont eu la chance de... C'est pour toutes sortes de raisons, des fois, c'est... d'avoir vécu une belle enfance. Souvent, c'est des gens tellement... plus équilibrés, plus sûrs d'eux, beaucoup de confiance en eux.
As-tu remarqué, des fois, on parle avec des gens, puis on le devine qu'ils ont eu des enfances heureuses.
Oui, oui.
On dirait que ça se ressent,
ça. Ça se ressent, puis les gens plus équilibrés, qui ont l'air d'avoir beaucoup de confiance, sont capables d'aider à leur tour des gens. Tu sais,
c'est souvent des gens qui sont très extrovertis, mais dans le bon sens de la chose. Puis, à un moment donné, ils vont nous parler de leur enfance, qui allait à tel endroit pendant les vacances d'été ou d'autres choses, les Noëls de leur enfance.
Ça se voit, ça se voit dans leurs yeux, puis ça s'entend dans leur voix, effectivement. Oui,
tandis que le contraire se ressent aussi, je trouve.
Effectivement.
Alors, je poursuis ma lecture. On retrouve des relations abusive de tout type, de plusieurs formes et à chaque marche de l'échelle sociale. Cependant, les véritables victimes dans ces labyrinthes affectifs sont les enfants, car construire sa propre identité dans un contexte marqué par les abus crée très souvent un point de départ d'un nouveau cycle de violence. Nous ne pouvons pas oublier qu'en tant que personne, nous avons tendance à répéter les modèles psychologiques et comportementaux qui nous sont connus et familiers. C'est pour cela qu'il est commun qu'au lieu de survivre à la relation toxique de nos parents, nous nous transformions possiblement en de nouvelles victimes ou de nouveaux exécuteurs parce que nous avons intériorisé ce même langage affectif. Pour amortir cet impact et le cycle des abus, nous avons donc besoin de mécanismes adéquats. Il est nécessaire que les enfants qui ont été témoins de ces dynamiques reçoivent un soutien social et thérapeutique. Car s'il y a bien une chose que tout enfant mérite, c'est la possibilité de vivre dans un environnement paisible. C'est également d'être éduqué pour faire le bien à travers une éducation basée sur la cohérence et le respect, et surtout à travers la proximité de parents sages, en affection et habiles, en amour.
Et probablement aussi, c'est d'aller chercher de l'aide, justement, le plus tôt possible, tu sais, parce que plus on agit vite, plus on peut peut-être aider l'enfant à mieux évoluer pour la suite.
Là, c'est ça. Oui. Alors, je pense que cet article a su toucher plusieurs gens qui nous écoutent. Pendant la lecture de l'article, j'ai lu deux citations, une de Sigmund Freud et une autre d'Agatha Christie.
Ouais.
Mais par curiosité, je suis allé voir sur le site leparisien.fr.
Où il y a beaucoup de citations, effectivement.
Où je vais à l'occasion.
Ouais.
Il y a Pythagore, Yvan, astronome et mathématicien, philosophe, scientifique de l'époque lointaine. Il a dit « Un homme n'est jamais si grand que lorsqu'il est à genoux pour aider un enfant. »
Très bien dit.
Donc déjà à cette époque, on se souciait des enfants.
Ouais.
Il y a aussi Jean-Paul Sartre, qui était artiste, écrivain et philosophe français. Il avait dit « Il est beaucoup plus facile pour un philosophe d'expliquer un nouveau concept à un autre philosophe qu'à un enfant. Pourquoi? Parce que l'enfant pose les vraies questions.
Ouais, » ouais.
Et j'ai le temps peut-être pour une autre
dernière,
pensée.
Ouais.
Oui, il y a Peter Ustinov, qui était cinéaste et artiste, acteur aussi. Il avait dit « Il se peut qu'un enfant unique soit gâté, non pas tant en cadeau qu'à cause du temps consacré à ses problèmes. Mais croyez-moi, il y a des moments où il souhaiterait avoir un frère ou une sœur pour essuyer les chocs avec lui. »
C'est une belle façon de terminer. Merci beaucoup, Pierre. Des belles citations. Donc, le sujet, les relations toxiques et les enfants. Merci.
Vous souhaitez écouter l'émission Folie douce au moment qui vous convient le mieux? Branchez-vous sur notre site web pour accéder à notre canal radio sur YouTube. antenne.qc.ca. antenne.qc.ca.
En conclusion de ce rendez-vous de Folie douce, Pierre, on va faire la nomenclature des chansons qu'on a entendues cette semaine à l'émission.
Oui.
En début d'émission, Homme de rien.
De Vincent Vallière.
On a entendu Devenir quelqu'un.
De Les Frangines.
Dans la deuxième demi, Nouveau pouvoir.
De Corneille.
Et à l'instant, Game Over.
De Thierry Audiamont.
Qu'on salue très bien. D'ailleurs, oui. c'est un amateur de l'émission puis, qui vient de la Belgique, mais qui aime bien notre émission. Donc, on le salue, M. Audiamont. On a reçu Guillaume Bertrand en début d'émission qui nous a mieux fait connaître ce que c'est de vivre avec le syndrome d'Asperger. Alors, merci beaucoup, Guillaume, d'avoir été des nôtres. À l'espresso et à l'espresso allongé, Pierre, tu nous as parlé des relations toxiques et les enfants. Alors, c'était très intéressant. On va sûrement y revenir éventuellement. Notre collaboratrice Catherine Stassin était aussi des nôtres. Elle nous a parlé d'agriculteurs et santé mentale. Je te remercie pour ta mise en onde, d'ailleurs, Pierre.
Bienvenue, mon cher.
C'était donc l'émission Folie douce. C'est Yvan Bugeaud à l'animation. Bonne semaine à tous et à la prochaine. Au revoir.